Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite un très bon sabbat. Nous sommes probablement assez familiers avec 2 Timothée, chapitre 3, et le verset 1 et le verset 2, que je vais quand même lire. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1, parle de l'époque de la fin. La situation de la société que nous trouvons de plus en plus autour de nous. De 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est le cas de le dire, pas uniquement avec le virus, mais dans d'autres domaines aussi. C'est ce qui est précisé dans le verset 2. Le domaine où ça va être difficile. Car les hommes sont égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. C'est une liste qui est assez longue. Et au début de cette liste, nous avons le mot égoïste. L'amour de soi. Le Synodal traduit ceci par épris d'eux-mêmes. Des gens de plus en plus dans la société qui sont épris d'eux-mêmes. Et il y a un ouvrage qui traduit ça par le fait d'être trop attentif à son propre intérêt. Trop attentif à son propre intérêt. Le mot en grec est intéressant parce que c'est philotos. Philos, qui veut dire cher, ou traduit parfois par ami, et autos, bon, ça s'explique tout seul. C'est nous qui sommes chers à nos propres yeux. Et c'est aussi, bien sûr, la nature humaine. Et de nos jours, il y a énormément de recherches de gratification de soi-même. Les médias en parlent, bien sûr. Et l'accent, et de plus en plus, c'est sur le fait de se faire plaisir. On peut dire que l'égocentrisme va toujours croissant. L'égocentrisme augmente de plus en plus. Et les gens se replient de plus en plus sur eux-mêmes. Parfois, nous voyons dans la Bible un principe ou une écriture, une vérité biblique qui est répétée 2 fois. Parfois même, c'est 3 fois. On voit donc l'importance de cette vérité biblique. Et il y a un exemple de ceci dans 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 24. Première référence, il y en a 3. 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 24. Que personne ne cherche son propre intérêt. Donc, par rapport à ce que nous venons de lire, c'est le contraire. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Propre intérêt, dans le grec, c'est donc un mot qu'on ne cherche pas cette gratification personnelle, justement. Nous avons une autre référence, deuxième référence, dans 1 Corinthiens chapitre 13 et le verset 5. En parlant de l'amour, donnant la définition de l'amour. Bon, déjà le verset 4, la charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. C'est le même mot. Elle ne cherche point son intérêt. Et puis, il y a une troisième référence, et cette troisième référence va nous donner le sujet du sermon, dans Philippiens, chapitre 2, et le verset 4. Philippiens, chapitre 2, et le verset 4. Je ne pensais pas en venant en Suisse que j'allais avoir trop chaud. Philippiens chapitre 2, verset 4. Mais là, c'est même marqué au pluriel ici, cette fois-ci. Parce que nous avons plusieurs intérêts, plusieurs centres d'intérêts en tant qu'être humain. Philippiens chapitre 2, le verset 4. Que chacun de vous, c'est même précis, c'est direct, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, tous ses intérêts qui nous tiennent à cœur, considère aussi ceux des autres. Ça nous donne le sujet, donc, du sermon. On peut même ajouter à ceci, souligner ce qui est dans le verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, donc on le considère ce qui constitue nos intérêts, et le mot est parfois traduit ailleurs, considérer, par prendre garde. On prend garde, donc pas uniquement à nos propres intérêts, on prend garde aux intérêts des autres. C'est un mot qui est donc suffisamment lourd, si je puis dire, suffisamment sérieux, dont il faut tenir compte. Prends garde, regardez, considérez, portez les regards, c'est tout ça le sens. Quelque chose, donc on dirige notre attention, pas uniquement bien sûr sur nous-mêmes, ça c'est quasiment automatique en ce qui nous concerne, mais de porter notre attention sur les intérêts des autres. Parce que nous avons nos tendances et il faut aller au-delà de nos propres tendances. Il faut être attentif aux intérêts, entre autres, de nos frères et tenir compte des intérêts des autres. Ça, c'est donc le sujet. Le sujet, c'est s'intéresser aux intérêts des autres. Une partie de ce sermon va être générale. Je vais commencer avec le général et plus tard, ça va être plus spécifique. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Considérez les intérêts des autres. 1 Corinthiens chapitre 10, c'est le verset 33. Il y a un principe ici qui rejoint ce que nous venons de lire. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, c'est le verset 33. Je m'efforce, c'est Paul qui parle, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, pas centré sur lui-même, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. C'est le fait d'oublier ses propres, jusqu'à un certain point, oublier ses propres intérêts, ce qui nous convient, nos propres conforts parfois, pour justement penser aux autres et chercher l'avantage d'autrui. Ça, c'est très important en ce qui nous concerne. Et bien sûr, Paul donne son propre exemple. En Corinthiens chapitre 9, verset 19. En Corinthiens chapitre 9 et le verset 19. On voit ici l'intérêt de Paul qui est porté aux autres, son esprit comme s'il est dirigé vers les autres, pour le bien des autres, pour l'intérêt des autres. En Corinthiens chapitre 9 et le verset 19, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Nous sommes effectivement le gardien de nos frères, de penser au bien de l'autre, de penser à son bien à tout point de vue, y compris spirituel. Verset 20. Avec les Juifs, j'étais comme Juif afin de gagner les Juifs. Donc, il s'adapte en fonction de qui est en face de lui, avec qui il a affaire. Avec les Juifs, j'étais comme Juif afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Et bien sûr, les intérêts des uns et des autres varient. Les intérêts des Juifs ne vont pas être forcément les mêmes que d'autres. Et par exemple, les Grecs et ainsi de suite. Sur un plan humain, leurs intérêts vont changer. Nous sommes des ambassadeurs pour le Christ. Et un ambassadeur, c'est quelqu'un qui s'adapte à son pays hôte. Il s'adapte jusqu'à un certain point. Il s'adapte pour autant que ce n'est pas contre ses convictions et que ce n'est pas contre ses valeurs. Mais si c'est des coutumes qui ne sont pas contre ses convictions, ses valeurs, il s'adapte parce qu'il voit aussi les intérêts ou l'intérêt des autres. Un orateur devrait tenir compte de son auditoire et les intérêts de son auditoire. Bon, nous avons tous les mêmes intérêts, point de vue spirituel, mais dans d'autres domaines, il faut aussi tenir compte. À un moment donné, si j'ai bonne mémoire, au collège, on nous demandait de donner un discours avec un auditoire désintéressé. Vous imaginez, nous étions jeunes, et on s'est beaucoup amusé à jouer, ceux qui étaient dans l'auditoire, à jouer les désintéressés. C'était les bâillements, c'était regarder ailleurs, c'était tout ce que vous voulez. Et le défi de l'orateur, c'est de capter l'attention de cet auditoire désintéressé. Parfois, il réussissait, parfois, il réussissait pas. Bon, évidemment, il fallait jouer le jeu aussi, mais il faut tenir compte, un orateur doit tenir compte de son auditoire. Et je peux vous dire que c'est plus difficile de prêcher quand vous ne voyez pas votre auditoire que quand vous le voyez, même si l'auditoire en question n'est pas nombreux. En Corinthiens chapitre 9, toujours, le verset 22. Paul qui parle toujours, « J'étais faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Donc, il s'est adapté, c'était pas pour la loi de Dieu, mais il s'est adapté. Il a tenu compte des intérêts de son auditoire. Il a abandonné sa propre volonté dans bien des domaines, son propre plaisir, son propre profit pour le bien des autres, pour le bien des frères dans l'Église. Il a abandonné donc sa propre voix et sa propre aisance, son propre plaisir. L'important, ça c'est donc important aux yeux de Dieu, de ne pas avoir les yeux sur soi, mais d'avoir l'intérêt des autres à cœur. Il y a un grand classique quand il s'agit d'exemple dans ce domaine, ça se trouve dans Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13, c'est Abraham et Lot. Ou Abraham et Lot, je pense. Dans Genèse chapitre qu'il était à ce moment-là, c'est donc Abraham. Dans Genèse chapitre 13, verset 1, il avait son neveu avec lui. Son neveu, vous rappelez qu'Abraham était descendu en Égypte. Il est remonté d'Égypte avec Lot, avec son neveu. Genèse chapitre 13, verset 1. Abraham remonte d'Égypte vers le Midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Bon, c'était la famille, évidemment, ils avaient une certaine relation ensemble, donc la famille. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du Midi jusqu'à Bethel. C'est marqué qu'il était très riche. Abraham était très riche. Ne dit pas exactement la même chose pour Lot, il dit qu'il avait des biens. Verset 5. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis. C'est pas marqué qu'il était très riche, mais il avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Évidemment, il fallait nourrir les troupeaux. S'il y a trop de bêtes, ce sera problématique. Verset 7. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananiens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Voilà une situation qui est difficile. Et on peut, humainement parlant, Abraham, il était l'aîné. C'est Abraham que Dieu avait appelé. Et logiquement, c'était à Abraham, s'il devait se séparer, c'était à Abraham de choisir. Mais Abraham considérait aussi les intérêts de Lot et lui a donné le choix. Verset 8. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi. Il voulait donc la paix. Il était disposé à sacrifier ses propres intérêts pour avoir la paix et laisser choisir son neveu qui choisisse ses intérêts. Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers. Car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Il a laissé le choix, le libre arbitre. Et Lot a regardé, et Lot a choisi, il a mal choisi, parce qu'il a choisi sur un plan physique, verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Il choisit pour ainsi dire le meilleur. On aurait pu penser que c'était le meilleur. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparent l'un de l'autre. Abraham habitait dans le pays de Canaan et Lot habitait dans les villes de la plaine et dressait ses tentes jusqu'à Sodome. Là, c'était de nouveau un choix qui était pas le meilleur. Verset 13, pourquoi? Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel, et on sait que Lot, par la suite, il a habité carrément à Sodome, avec les conséquences que nous connaissons. Mais Abraham avait confiance en Dieu, et il a laissé Lot choisir en fonction de ses propres intérêts. Philippiens chapitre 2, verset 21. Philippiens chapitre 2, verset 21. Et bien sûr, Dieu l'a béni. Il a continué à avoir confiance en Dieu et Dieu l'a béni. Philippiens chapitre 2, verset 21. On va voir ici un autre exemple. C'est l'exemple de Timothée. Paul parle de Timothée aux gens de Philippe, aux Philippiens. Philippiens chapitre 2, verset 19. « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. » Et ensuite, il va plus loin. Les éloges de Timothée et le fait de ne pas donner d'éloges à d'autres. Verset 21. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts. Les autres cherchaient leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Et Timothée cherchait les intérêts de Jésus-Christ et cherchait, bien sûr, par voie des conséquences, les intérêts des frères de l'Église pour le faire du bien. Parce que les intérêts des uns et des autres varient, changent. Verset 22. Vous savez qu'il était mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Et Timothée, comme Paul, sacrifiait un certain nombre de choses. Verset 23. J'espère donc vous envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis, et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. Il y a aussi Épaphrodite, dans le verset 25, quelqu'un aussi qui prenait à cœur les intérêts des membres, des frères dans l'Église, verset 25. « J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat par qui vous m'avez fait parvenir, de quoi pourvoir mes besoins. Car il désirait vous voir tous, il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade en effet et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. » Et là aussi, il avait l'intérêt des frères à cœur, parce qu'il était disposé à se donner au point de au point qu'il est devenu malade. Les intérêts des autres. Quand nous voulons montrer notre amour pour les autres, automatiquement, logiquement, nous nous intéressons aux autres. Il y a peut-être, certainement, ça dépend peut-être des circonstances, mais logiquement, il y a une certaine différence entre voir les besoins des autres et les intérêts des autres. Les besoins des autres sont des choses qui sont, la plupart du temps, assez évidents et que ce n'est pas difficile à constater. Quelqu'un qui est malade a un besoin d'un certain nombre de choses. Peut-être quelqu'un qui est seul a besoin aussi d'un certain nombre de choses. Comme j'ai dit, c'est peut-être plus facile à voir les besoins directs de quelqu'un. Tandis que si on analyse le mot, les intérêts d'un être humain et les intérêts de nos frères dans l'Église, pour faire face aux intérêts de quelqu'un, il faut déjà connaître la personne et connaître bien la personne. Il faut s'intéresser sincèrement à la personne. S'intéresser sincèrement et parler avec la personne par amour. C'est ce que Dieu fait avec nous. De toute façon, Dieu s'intéresse à nous. L'intérêt pour nous, c'est d'être dans le royaume de Dieu, au point de vue spirituel. Et Dieu s'intéresse à nous au point de travailler avec nous pour que nous puissions être dans le royaume, pour que nous puissions changer et être dans le royaume. Dans l'Église de Dieu, nous venons de tellement de milieux différents, tellement d'origines différentes, avec des caractères bien différents, avec des personnalités bien différentes, qui nous sont propres et qui sont parfois complexes. Et on ne peut pas connaître, on ne peut pas faire face, pas faire face, mais on ne peut pas prendre soin considérer les intérêts des autres sans approfondir notre connaissance de nos frères dans l'Église, puisque je parle ici surtout des frères. Le Christ, bien sûr, faisait en tant qu'orateur, était un orateur parfait, et le Christ parlait entre autres en paraboles, des paraboles qui intéressaient les gens. Il parlait, il connaissait les intérêts de son auditoire, et il parlait à son auditoire, même si son auditoire ne comprenait pas sur un plan spirituel les paraboles qu'il donnait. J'ai regardé, vous savez maintenant qu'il y a des blogs, il y a des, sur nos sites de Cogwell, d'Adam, il y a des sermons, il y a des articles, il y a aussi des blogs. Et en préparant ce sermon, je suis allé sur le site d'Adam, bon, c'est en anglais, et j'ai vu un article écrit par une jeune fille qui était seule. Et cette personne souffrait de solitude. Enfin, je résume son histoire. Son histoire, c'est qu'elle commence à se rendre compte que sa vie tourne autour d'elle. Elle vit bien occupée, elle avait du travail, elle avait ceci, elle avait cela, elle avait beaucoup, oui, un certain nombre de responsabilités même en son travail. Mais elle commence à se rendre compte que sa vie était centrée sur elle-même et elle commençait à réfléchir. Et en réfléchissant, elle est tombée sur Philippiens chapitre 2 que nous venons de lire. Et elle est aussi tombée sur une phrase de, et je me souviens plus maintenant le nom de l'auditeur. La personne, c'est un écrivain, Mark Twain. Mark Twain, qui a dit que si on veut nous remonter, si on veut se remonter la morale, il faut remonter la morale des autres. Autrement dit, on cherche à faire du bien. On s'intéresse aux intérêts et s'est rendu compte que, elle voulait à ce moment-là commencer à s'intéresser davantage aux intérêts des autres. Et elle a commencé à voir, mais qu'est-ce que je peux faire? Elle avait des dons, point de vue, certains dons musicales, et elle voulait donc utiliser, chercher à utiliser son don musical. Et vous les servez dans d'autres domaines. Et elle réussissait à servir dans ce domaine-là. Mais le tout, c'était qu'elle cherchait les intérêts des autres et comment elle pouvait apporter quelque chose aux autres. Et ce faisant, elle a enrichi sa propre vie. Mais le mot clé, c'est le dialogue, la communication, le fait de prendre à cœur. Nous voyons dans Éphésiens chapitre 2, verset 19. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Nous savons bien que l'Église de Dieu est un bâtiment et chaque bâtiment a une fondation, une base. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. On parle maintenant donc dans un contexte spirituel. Verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, une base, un fondement, une structure, sans quoi on ne peut pas bâtir. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur, et en lui, vous avez été édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. Il y a quelque chose qui se diffuse dans ce bâtiment, et quelque chose qui est à la base. C'est l'amour. La pierre angulaire, c'est le Christ, qui était l'amour parfait. Les apôtres, puisqu'on parle ici, le fondement des apôtres et des prophètes, démontrer beaucoup d'amour. Cet amour, donc, c'est quelque chose qui se diffuse, qui se répand dans le bâtiment, sinon il n'y a pas de cohésion. Sinon, on ne peut pas parler d'ensemble. Si nous allons dans Éphésiens chapitre 4 et le verset 15, Éphésiens chapitre 4, verset 15, il parle de l'édification du corps de Christ dans le verset 12, parle dans le verset 13 à la mesure de la stature parfaite du Christ. Verset 15, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc, un bâtiment qui s'édifie et nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tous les corps bien coordonnés et formant un solide assemblage, l'Église qui croit, l'Église qui grandit, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Trois mots qu'on peut constater. On parle, dans le verset 16, on parle d'accroissement. C'est trois mots clés dans ce bâtiment. Croissement, l'Église qui grandit, qui s'édifie, et l'amour, l'agapé. Sinon, si l'amour ne fait pas, n'y est pas, il n'y a pas de cohésion. Sinon, on ne construit pas comme Dieu veut qu'on construise. Et donc, une partie de cet amour, c'est de le montrer l'intérêt, l'amour pour les autres. Et si on fait ceci, l'Église se développe, l'Église grandit. Je vous ai dit tout à l'heure qu'une partie de ce serment a été générale et une partie qui était plus spécifique. Mais j'ai fait exprès de diviser ce serment en deux à cause de mon auditoire. Apocalypse chapitre 19, verset 7. Apocalypse chapitre 19, verset 7. Nous savons que le Christ va revenir sur cette terre, que le Christ va épouser sa fiancée, qu'il y aura un mariage. Oui, là, donc maintenant, je parle de l'intérêt pour les autres au sein du mariage dans le couple. C'est la deuxième partie de ce serment. Apocalypse, chapitre 19, et le verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Nous voyons l'amour au sein du mariage, et je cite dans la cérémonie de mariage que nous avons, nous voyons donc que l'amour au sein du mariage symbolise la relation spirituelle entre Dieu et son Église. Et c'est dans votre soumission à l'amour divin que votre mariage s'affermira et sera protégé. Et dans l'Église, on apprend à croître, et le mariage, c'est un très bon terrain d'apprentissage pour développer cet intérêt, justement, pour les autres. C'est un très bon terrain d'apprentissage pour développer cet intérêt pour les autres. Et ça va même très loin, si nous voulons être heureux en mariage. Revenons à 2 Timothée chapitre 3, verset 1. On peut prendre les mêmes choses que j'ai citées dans un contexte général, et on peut les appliquer, bien sûr, aussi dans le contexte d'un couple, dans le contexte d'un mariage. 2 Timothée chapitre 3, verset 1, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes sont égoïstes. » Et les hommes deviennent de plus en plus égoïstes. Et si nous sommes égoïstes dans nos mariages, ça fera beaucoup de mal à notre mariage, et ce sera même toxique. Et ça va nuire aux relations d'intimité, des relations intimes et intentionnées que Dieu a prévues. Il y a un danger dans un mariage, c'est que lorsqu'on se marie, ça y est, on est marié, on est entre guillemets casé, et je continue ma vie et je continue mes intérêts. Je continue mes propres intérêts. Mais qu'est-ce qui se passe si, dans un couple, chacun suit ses propres intérêts? Ben, tout simplement, chacun va dans une direction opposée. Et inévitablement, on s'éloigne l'un de l'autre. Quelques années en arrière, j'ai regardé sur Internet, j'ai pas trouvé. On trouve tout sur Internet maintenant, mais là, cette fois-ci, j'ai pas trouvé. Mais je me rappelle bien que j'avais entendu ça quelques années en arrière. Il y avait des gens qui allaient à la plage, mariés. Le mari voulait s'amuser, chercher ses propres intérêts, et faisait des planches à voile. Matin, midi et soir, si je puis dire. Et il y avait cette année-là, en tout cas, un certain nombre de divorces, parce qu'à la fin des vacances, le mari ayant passé son temps sur le planche à voile, la femme, à la fin, elle a demandé le divorce. Parce qu'il cherchait son intérêt, il cherchait pas, visiblement, l'intérêt de son épouse. C'est comme l'histoire de ce journaliste qui voulait faire le tour du monde en bateau en voile, bateau à voile. Et oui, il était content, il a pris beaucoup de choses à propos de lui-même. Mais quand il est rentré à la maison, il a trouvé que sa femme s'était mariée à quelqu'un d'autre. Alors, c'était pas chercher l'intérêt des autres. Chercher l'intérêt des autres, il y a aussi le fait de projeter beaucoup de choses ensemble. Je travaillais dans un bureau pendant à peu près 13 ans, un peu plus de 13 ans, je crois. Et du fait que je travaillais dans un bureau, c'était pas exactement mon endroit de prédilection, et je rentrais à la maison la dernière année, je crois que j'étais loin de la maison 12 heures par jour, pas là. Et je rentrais à la maison, je n'avais qu'une chose en tête, c'était me détendre. Bon, heureusement qu'on a un jardin où je pouvais la plupart du temps me détendre. Et bon, mon intérêt à ce moment-là, c'était de me détendre après cette journée de travail, qui était parfois difficile. Et ensuite, j'ai pris ma retraite. Et avec la retraite, j'ai appris à tenir compte de choses que je n'avais pas vues avant et être plus attentif aux besoins, pas uniquement aux besoins, mais aussi aux intérêts de ma femme. Et j'ai appris à tenir davantage compte, justement, des intérêts de mon épouse. Le fait de prendre sa retraite, c'est de notre vie. Parce qu'on passe, pratiquement toute la journée avec son conjoint. Et on a tout intérêt de rechercher de plus en plus les intérêts de l'autre. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Laissez-moi vous lire un autre extrait de la cérémonie de mariage des dames. Rapportons-nous donc maintenant aux lois divines gouvernant cette union et aux instructions que Dieu donne aux maris et aux femmes telles qu'elles apparaissent dans la Bible. Dans Éphésiens 5, 21, Paul parle de se soumettre les uns aux autres dans la crainte du Christ. L'alliance sacrée du mariage exige que vous vous soumettiez à Dieu et l'un à l'autre, que vous ayez un profond estime mutuelle, que vous vous honoriez et que vous vous respectiez mutuellement dans l'amour et dans le dévouement, que vous vous donniez toujours la priorité au bien-être de l'autre. L'altruisme est le fondement de tout mariage réussi. Au mari, Paul a écrit, « Mari, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. » Et Paul conclut par ces mots, « Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » Le verset 33. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de le sanctifier par la parole après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Le Christ a toujours eu, bien sûr, l'intérêt de son épouse, sa fiancée, en tête. L'intérêt, c'est un plan spirituel. Verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Cette Église glorieuse, c'est son but. Les intérêts sont plan spirituel de son épouse. 1 Pierre chapitre 3, verset 1. Et aussi, ça nous concerne, les intérêts sur un plan spirituel de nos épouses. 1 Pierre chapitre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Là, de nouveau, nous avons les femmes, en l'occurrence, que Dieu demande d'être donc soumises à leur mari. Mais pourquoi? Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. D'avoir aussi l'intérêt des autres à cœur. De servir d'exemple, afin que. Donc l'intérêt, pas uniquement de sa mari, mais l'intérêt des autres aussi d'une façon plus générale. Verset 7. On arrive à le contexte spirituel, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Honorez-les, ça peut être traduit, le mot honorer peut être traduit par le mot précieux. Je reviens à Éphésiens chapitre 5 et le verset 28. Éphésiens chapitre 5 et le verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Vous vous rappelez au début du sermon que je vous ai donné trois références, où il y a le mot, même mot en grec. Et ici, ce mot, le même mot en grec, ressort à trois reprises. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est répété trois fois. Ailleurs, c'est traduit par intérêt. Ici, c'est traduit différemment. Mais c'est toujours le même. C'est toujours le même axe. C'est toujours la même pensée. C'est toujours la même, même valeur. Et Dieu accorde énormément de valeur, bien sûr, au mariage. Mais c'est aller dans la même direction. Verset 29. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il a nourri et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Et c'est assez ironique, parce qu'en ne pas étant égoïste, on reçoit. On ne fait pas, on cherche pas l'intérêt, que ce soit dans l'Église ou dans le mariage, on cherche pas l'intérêt de l'autre par égoïsme, mais ça nous revient quand même, ça nous revient dans le mariage. Verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. En étant donc l'amour que nous avons pour nous-mêmes, on l'étend aussi pour englober sa femme. On l'étend aussi pour englober sa femme. J'ai un livre ici, Le langage de l'amour. Je vous ai déjà cité ce livre dans le temps. Je voulais vous lire un petit extrait de la page 45. Le monsieur qui a écrit ce livre, qui est davantage connu aux États-Unis, dit ceci, donne un exemple, parce que je pense qu'il est conseillé au mariage, il dit ceci. Barbara avait toujours aimé écrire. Vers la fin de son cycle universitaire, elle suivit quelques cours de journalisme. Elle découvrait rapidement que la rédaction la passionnait beaucoup plus que l'histoire. Donc on parle de l'intérêt de l'autre. C'était son intérêt. Beaucoup plus que l'histoire, qui était pourtant la matière principale de son cursus. Il était trop tard pour changer de voie. Néanmoins, après avoir quitté l'université et mis au monde son premier bébé, elle écrivait plusieurs articles. Elle en soumit un à une revue, mais le rejet qu'elle essuya le découragea et elle ne renouvela pas sa démarche. Quand ses enfants furent grands, elle put disposer de plus de temps. Elle se mit de nouveau à écrire. Son intérêt n'a pas changé. C'était profonde, c'était là, c'était présent à travers les années. Julien, le mari de Barbara, n'avait montré que peu d'intérêt pour les écrits de sa femme pendant les premières années de leur mariage. Il s'estimait assez pris par son propre travail, ses intérêts, par son propre travail, son désir de grimper dans l'échelle sociale. Mais avec le temps, Julien comprit, il a grandi dans le mariage, Julien comprit que l'essentiel de la vie ne résidait pas dans la réussite professionnelle, ses intérêts commencent à changer, pas uniquement ses propres intérêts, mais dans la relation, Il a appris à accorder plus d'attention à sa femme et à ses centres d'intérêt. Pour connaître les centres d'intérêt de son épouse et de son époux, il faut beaucoup parler. Et ses centres d'intérêt. C'est donc tout naturellement qu'un soir, il prit un manuscrit de Barbara et le parcourut. Quand il eut fini, il se rendit dans le bureau de sa femme et lisait. Il ne put maîtriser son enthousiasme. J'ai horreur de t'interrompre dans ta lecture, mais je tiens à te dire ceci. Je viens de lire ton article intitulé « Tirer le maximum de ses vacances ». Barbara, tu es un grand écrivain. Une femme qui entend ça dans la bouche de son mari, elle devait être aux anges. Tirer le maximum de... Barbara, tu es un grand écrivain. Ton texte mériterait d'être publié. Ton écriture coule admirablement. Ton style est fascinant. Il faut absolument que tu soumettes ton travail à quelques éditeurs de revues. Penses-tu sincèrement ce que tu dis? Demanda Barbara, incrédule. Absolument, je te le dis. Tu as fait du bon boulot. Lorsque Julien quitta la pièce, Barbara ne reprit pas sa lecture. Le lit fermé sur ses genoux et resta une demi-heure à repasser en mémoire, les paroles de son mari. Elle se demandait si le regard qu'il portait sur ses écrits sera partagé par d'autres personnes. Elle se souvint de l'échec cuisant qu'elle avait connu quelques années plus tôt, mais elle se dit que désormais elle avait changé. Elle avait fait des progrès dans l'art d'écrire. Elle avait plus d'expérience. Avant de se lever, Barbara avait pris une décision. Elle présentait ses articles à différents périodiques et demandait au rédacteur s'ils pouvaient être publiés. Julien a prononcé ces paroles d'encouragement il y a 14 ans. Depuis, Barbara a publié de nombreux articles et a même décroché un contrat pour écrire un livre. Bien qu'excellent écrivain, il avait fallu à Barbara les mots d'encouragement de son mari pour l'inciter à renouveler sa démarche et à faire publier ses écrits. Nous n'avons pas forcément les mêmes intérêts que ça, mais on a tous des intérêts. Et on peut tous s'encourager avec nos intérêts. Ruth, chapitre 2. Boaz et Ruth, histoire d'amour. Boaz qui s'intéressait à Ruth, dans Ruth, chapitre 2, verset 3. Déjà verset 2. Ruth, chapitre 2, verset 2. Ruth le Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui qui, aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle avait besoin, elle et sa belle-mère avaient besoin de manger. Son intérêt, c'est de travailler là où elle pouvait, c'était glaner en l'occurrence. Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle allait glaner dans un champ derrière les moissonneurs et il se trouvait par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz qui était de la famille. D'Abélec. Et voici Boaz, vint de Bethléem, et dit au moissonneur que l'Éternel soit avec vous. Voyez ici déjà le cœur de Boaz. Il avait l'intérêt de ses ouvriers, des moissonneurs, il les avait à cœur. Que l'Éternel soit avec vous. Réponse, on donne, on reçoit. C'est pas toujours le cas, mais ici c'est le cas. Il lui répondit, que l'Éternel te bénisse. Je pense pas qu'on dirait ça de nos jours. Mais il avait vraiment les intérêts des moissonneurs à cœur. Il s'intéressait aussi à Ruth. Et il s'intéressait à ses intérêts. Et ses intérêts, c'est de gagner, comme j'ai dit, de gagner sa vie. Même si c'était en glanant. Verset 6. Il pose la question à celui qui est en charge. À qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller le moissonneur répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Et elle dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs, comme c'était la coutume à l'époque. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où leur moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher et quand tu auras soif, tu iras au vase. Et donc, il fallait faciliter les choses pour elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs ont puisé. Elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Elle lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis un étranger ?» Il s'intéressait à Ruth, mais il s'intéressait aussi à ses intérêts et il facilitait la vie et la pour rentrer chez elle avec une certaine quantité de blé ou de l'orge. Mais avec des graines. Même la belle-mère, chapitre 3, verset 1, s'intéressait à elle, s'intéressait à ce qui était bon pour elle, ses intérêts. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. » Et chapitre 3, verset 18, Et Naomi dit, une fois que Boaz, vous connaissez l'histoire, Boaz va dire qu'il va faire tout ce qu'il faut. Il va trouver aussi celui qui avait le droit de rachat avant lui. Et verset 18, et Naomi dit, « Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qui n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Bien sûr, dans l'intimité du mariage, c'est pareil. Et c'est ce que 1 Corinthiens chapitre 7 nous précise, c'est l'intérêt de l'autre qui compte. C'est l'intérêt de l'autre qui compte. La Bible parle de ne pas avoir l'autorité sur son propre corps. Le mariage est une expérience qui change notre vie et notre caractère, on l'espère. Philippiens chapitre 2, verset 4. Philippiens chapitre 2, verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Tenir compte des intérêts de l'autre, se soumettre aux intérêts de l'autre est ce qui lui fait plaisir. D'avoir ses pensées dirigées vers l'autre, et bien sûr, c'est vrai aussi pour nos frères dans l'Église. Pour notre conjoint, c'est ce qui lui tient à cœur, ses aspirations avant nos propres intérêts. Et ceci dit, ça fortifie, ça fait réussir un mariage. Le mariage, c'est de l'engagement de tous les instants. Dans un mariage, il n'y a pas de place pour la paresse. Un mariage, c'est quelque chose qui est précieux et c'est tout sauf commun. Mais il peut devenir commun si on ne passe pas du temps, si on ne s'intéresse pas aux intérêts de notre conjoint. Mais il faut aussi dialoguer, il faut discuter. Il faut combler, entre autres, l'intérêt de l'autre et montrer son intérêt. Nos intérêts, comme ça rejoint un petit peu l'histoire qu'on a lue tout à l'heure, ça peut être le travail, la carrière, position sociale, mais nos yeux devraient être sur le bien-être de l'autre. Pour ne pas détruire justement le mariage que Dieu a béni, le mariage que Dieu a uni et le mariage que Dieu a sanctifié. Proverbes chapitre 5, verset 19. Proverbes chapitre 5 et le verset 19. C'est un passage que j'aime beaucoup parce que à l'époque où on parle beaucoup de sexualité, la Bible dit les choses différemment. Proverbes chapitre 5, verset 19. Biche des amours. Il parle de, on va pas lire le tout, verset 15. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits, tes sources doivent-elles se répandre au dehors, tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques, qu'ils soient pour toi seul et non pour les étrangers avec toi, que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Les années passent et c'est toujours faire de faire la joie de sa femme, la joie de notre jeunesse. Faire la joie de la femme, pardon, de ta jeunesse. Dans le rabbinat, c'est écrit, traduit par ceci, que son amour t'enthousiasme sans cesse. Mais pour que l'amour de notre épouse ou notre époux nous enthousiasme sans cesse, il faut le voir. Il faut être attentif. Et si nous voyons les intérêts de notre époux ou notre épouse, logiquement, il va y avoir en retour cet amour. Cet amour que on va pouvoir voir. Et qu'on va même pouvoir voir par moment dans ses yeux. Il y a, bien sûr, quand on se marie, il y a le temps des amours, mais ce temps des amours devait durer. Nous connaissons probablement les trois tomes de Marcel Pagnol sur ses souvenirs d'enfance. Ce qui est peut-être moins connu, c'est qu'il y a un quatrième tome qui était publié après sa mort. Et ce quatrième tome, c'est un tome qui est inachevé, publié en 1977, à titre posthume. Et ce quatrième tome s'appelle « Le temps des amours ». C'était le temps quand il était au lycée. Il était, je crois qu'il n'était plus avec Isabelle à ce moment-là, si vous vous rappelez l'histoire. Et « Le temps des amours », donc c'est le quatrième tome, où il parle de souvenirs d'enfance. Et c'est le temps des amours. Il peut y avoir dans un couple, bien sûr, logiquement, il va y avoir le temps des épreuves, mais il faut jamais que le temps des amours disparaisse. Il faut jamais que le temps des amours disparaisse. Quand nous nous intéressons aux autres, on cherche leurs intérêts, dans un bon sens, on prend à cœur leurs intérêts, ce qui les intéresse, leur vie, peut-être leurs rêves, les projets, ça dépend de ce que personne, bien sûr, veut vous confier. Hein. Il ne s'agit pas de s'immiscer dans la vie de quelqu'un, mais dans un couple, on est près l'un de l'autre, on est proche, on passe tout son temps ensemble, beaucoup de temps ensemble. Et donc, on peut, bien sûr, prendre à cœur ce qui intéresse l'autre, les intérêts des autres. Et si la personne a des intérêts, nous pouvons les encourager aussi pour que la personne, pour notre conjoint, notre conjointe, se développe, s'épanouit. J'ai voulu vous lire encore un extrait de la cérémonie du mariage qui va rejoindre ce que nous avons dit au début du sermon. La qualité essentielle dans un mariage heureux réussi sont celles qui expriment un amour sincère qui ne cesse de se développer en nous, tel que l'apôtre Paul l'a décrit dans l'église de Corinthe. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne sent point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt. Voilà, nous sommes revenus ici au point de départ, Philippiens chapitre 2. Il ne cherche point son intérêt. Et ça, c'est dans la cérémonie du mariage. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Ça fait partie de l'amour. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Ce n'est pas pour rien, donc, que nous avons inclus ceci dans la cérémonie du mariage. Et l'amour va très loin. Et dans la cérémonie du mariage, nous disons également ceci. En conséquence, et ensuite on cite le nom de la personne, prénom, aux États-Unis tout au moins, prénom de la fiancée, promettez-vous fidèlement à Dieu et engagez-vous devant lui en présence de ses témoins à prendre le nom de sa future femme en tant que votre épouse légitime pour toute votre vie, même si elle tombe malade, dans les épreuves, dans les bons moments, comme dans les mauvais, jusqu'à ce que la mort vous sépare de l'aimer. L'intérêt de l'autre, c'est aussi une partie de l'amour. De l'aimer, de la chérir, de l'honorer et de pourvoir à ses besoins. Et bien sûr, c'est la même chose pour le conjoint, pour l'épouse. Et vous, promettez-vous fidèlement à Dieu, vous engagez-vous devant lui en présence de ses témoins de prendre le nom de son mari, en tant que votre époux légitime pour la vie, même s'il tombe malade, dans les bons moments comme dans les mauvais, jusqu'à ce que la mort vous sépare, de l'aimer, de le chérir, de l'honorer, et comme Dieu l'ordonne, de vous soumettre à lui. Et en principe, elle dit oui. Satan veut mettre toutes sortes de distractions dans nos vies, pour que justement nous ne prenions pas à cœur les intérêts de notre conjoint. Mais pour connaître les intérêts de l'autre, c'est vrai dans l'Église, mais c'est aussi vrai à plus forte raison dans un mariage, il faut qu'il y ait des conversations abondantes. Conversations abondantes dans tous les domaines. conversation abondante dans tous les domaines. Parce que, pourquoi? Parce qu'on a pris à cœur les intérêts de notre conjoint, notre conjointe. On a pris à cœur ce qui les intéresse vraiment. Et ce qui est formidable dans l'exemple que je vous ai cité, c'est que le mari au début, c'est ce qui est formidable, c'est le fait qu'il a changé. Ses intérêts au début étaient plutôt sur lui-même. Et il a appris avec les années à regarder différemment, à regarder le relationnel davantage. Et pas uniquement ses intérêts du travail, etc., ou de carrière. Et ce faisant, il a fait beaucoup de bien à sa femme. Donc, des conversations abondantes, parce que nos relations, et je termine avec ceci, nos relations entre nous dans l'Église sont quelque chose qui est très, très précieuse. Nos relations sont précieuses. Notre croissance aussi est indispensable. Et vous rappelez que le bâtiment, le mot croître, ça faisait partie de le bâtiment s'édifie, croît. Alors si nos relations entre nous, frères de l'Église, sont précieuses, à plus forte raison, est-ce que nos relations entre nous dans un mariage sont précieuses, sont très très précieuses, ont beaucoup de valeur et Dieu les regarde. Dieu, pour Dieu, le mariage a beaucoup de valeur et pour nous, ça devrait être la même chose.